RCF.
Qui ne connaît pas en France les films Rabbi Jacob ou La vérité si je mens, des films imprégnés de cette forme d'humour si particulier qu'est l'humour juif. Mais que dit l'humour juif de la religion et de la culture juive? Pour en parler, je reçois un sociologue, Michel Wieworka. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à l'antisémitisme, au racisme et à la violence. Cette fois, vous publiez un essai assez personnel intitulé « La dernière histoire juive, âge d'or et déclin de l'humour juif » aux éditions de Noël. Alors, on ne vous attendait pas tout à fait sur ce thème, Michel Wieworka.
Moi non plus, je ne m'attendais pas tout à fait sur ce thème, à dire vrai. Mais c'est une entrée, en réalité, qui me permet de, à partir d'histoires juives, le livre comporte une vingtaine, ça n'est pas un recueil d'histoires juives, mais à partir de quelques histoires bien choisies, je crois, ça me permet de réfléchir à ce qu'a été, pour les Juifs, l'époque qui va de la sortie de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, au 7 octobre 2023.
Mais à quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'écrive sur l'humour juif?
Alors, je n'en avais pas du tout l'intention. Et puis, il m'est arrivé quelque chose de passionnant. Je suivais la Convention citoyenne sur la fin de vie, où j'étais observateur, lorsque j'ai rencontré en même temps, venu pour présenter leur approche, le grand rabbin de France, le recteur de la mosquée de Paris, l'archevêque de Paris, le responsable religieux protestant, un responsable bouddhiste et un responsable d'une église orthodoxe. Tous venus pour expliquer leur point de vue sur suicide assisté, euthanasie, soins palliatifs. Et on est dans le hall, je les salue, puisque j'en connais certains d'entre eux, on bavarde aimablement, et je leur dis, écoutez, vous êtes là pour réfléchir et nous aider à y voir plus clair sur les problèmes de fin de vie, mais est-ce que vous connaissez l'histoire drôle juive qu'on raconte sur quand commence la vie? Alors ils me disent non, sauf le rabbin, le grand rabbin de France, qui me dit, ah, moi je la connais, elle est très drôle, je lui dis, je la raconte, mais oui, je vous en prie. Je la raconte, je la dévoile pas, les lecteurs de mon livre la trouveront, et je la raconte, tout le monde rit de bon cœur, et à ce moment-là, le grand rabbin dit « j'en ai une autre ». Et il raconte une autre histoire juive, et l'histoire que raconte le rabbin me donne beaucoup à réfléchir. Je la raconte pas non plus. Et donc j'ai commencé à gamberger sur les histoires juives. Moi, je suis d'une famille juive, et dans mon milieu familial, mon père aimait bien raconter des histoires juives, comme on dit. Et je me suis aperçu que ça méritait d'être examiné. Donc j'ai plongé, si vous voulez, dans ces histoires. Et en plongeant dans ces histoires, j'ai plongé aussi dans la vie américaine des années 50, 60, 70, dans la vie française. Et j'ai réfléchi donc, à partir de toutes petites histoires, à la grande histoire.
Oui, c'est ça. Vous-même, vous êtes juif, mais vous n'êtes pas spécialement pratiquant. Ou en tout cas, vous ne vous dites pas spécialement pratiquant dans votre livre.
Non, vous savez, j'appartiens à un milieu venu d'Europe centrale juste après la Première Guerre mondiale. Un milieu qui se définissait comme bundiste. Le Bund, c'était le mouvement socialiste juif, ouvrier juif. Et il était non religieux et à l'époque, avant la création de l'État d'Israël, hostile à la création d'un État juif. Et donc, moi, j'appartiens à cette tradition. Évidemment, ce mouvement a disparu, laminé par les nazis. Et s'il avait fallu qu'il renaisse, le stalinisme lui aurait complètement coupé toute velléité d'exister. Et donc moi, j'appartiens à cette filiation, si vous voulez.
Et vous avez une forme d'attachement particulier à l'humour juif?
Je me suis aperçu qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée de faire un livre, j'allais devoir mêler la grande histoire, qu'est-ce qui s'est passé, la création de l'État d'Israël, la façon dont la perception de la Shoah a évolué, enfin un certain nombre de grandes choses, avec ce qui était de l'humour, et avec ce qui était ma propre trajectoire et ma façon de réfléchir à des grands problèmes de société.
Et dans votre livre, vous ne parlez pas de blagues juives, mais à chaque fois, vous employez l'expression « histoire juive » que vous mettez entre guillemets. Pour quelle raison?
Bon, ça m'est venu comme ça. Et vous savez, quand on entend raconter ce genre d'histoire, les gens ne disent pas « j'ai une bonne blague juive à te raconter ». Les gens disent « ah, j'ai une bonne histoire juive ». Et donc, c'est le vocabulaire. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Il y a toujours eu de l'humour chez les juifs. Toujours. Les rabbins vous expliqueront qu'il y en a certainement eu même dans la Torah, donc vous vous rendez compte. Mais ce que j'appelle moi les histoires juives, c'est un genre très particulier. Par exemple, des histoires où on met ensemble un prêtre, un pasteur, un imam, un rabbin, ce genre d'histoires, ou des histoires qui mettent en scène la mère juive. Eh bien, tout ça, c'est une invention récente. C'est-à-dire que, en réalité, c'est apparu aux États-Unis et un peu après, je pense, en France, dans les années 60. Et donc, c'est ce genre-là, si vous voulez, qui m'intéresse.
Connaître le judaïsme, Odile Riffaut.
Et nous sommes en votre compagnie, Michel Wiewórka, nous parlons de l'humour juif. Vous dites très clairement dans votre livre que l'une des caractéristiques de l'humour juif, c'est l'autodérision. Or, être dans l'autodérision, ça peut se retourner contre soi.
Alors, c'est la première caractéristique de cet humour. C'est pas le seul. Les Britanniques ont un côté aussi un peu autodérision dans leur humour. Mais si vous voulez, l'autodérision, ça permet de prendre de la distance par rapport à soi. De parler de soi en se moquant, donc en étant critique d'une certaine façon, mais en contrôlant évidemment la critique, en contrôlant la dérision. Jusqu'au jour où la critique et la dérision vont plus loin et deviennent de la haine des juifs. Alors l'humour juif, c'est quelque chose qui pendant longtemps circulait entre juifs simplement, ou était perceptible uniquement par des juifs. Si je vous dis que Mel Brooks, dans un de ses films, fait parler un indien en yiddish, ça fait hurler de rire des gens qui savent ce qu'est le yiddish, qui entendent le yiddish. Oui. Mais sinon, une personne qui n'a pas du tout été en contact avec cette culture ne perçoit rien de particulier. Il entend un chef indien parler une drôle de langue, c'est tout. Et donc, ça permet de prendre de la distance, mais si c'est mal utilisé, ou si c'est utilisé sans bienveillance, alors ça tourne à l'antisémitisme. Donc c'est quelque chose, effectivement, d'un peu complexe.
Oui, il y a cette petite blague juive en quatrième de couverture. Je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort. Effectivement, c'est drôle, ça fait rire. Pour autant, le sujet du rapport des juifs à l'argent, ça peut être utilisé à des fins antisémites.
C'est un des grands thèmes de l'antisémitisme. Mmh. Les juifs sont cupides, les juifs sont avares. Et c'est très vieux, ça date de l'anti-judaïsme, c'est donc bien avant l'antisémitisme. Shylock, chez Shakespeare, est juif. C'est l'avarice personnifiée. Et donc oui, on reproche aux juifs le goût immodéré de l'argent. L'autodérision va consister à pousser ça jusqu'à l'absurde pour montrer que c'est pas sérieux de parler comme ça. Vous avez évoqué les aventures de Rabbi Jacob tout à l'heure. Dans ces aventures de Rabbi Jacob, un des acteurs, c'est Popek. Popek, dans un sketch, par ailleurs, dit qu'il est au restaurant, il se met en scène, et il dit « je voudrais le menu enfant ». Alors tout le monde comprend que c'est sa radinerie extrême, ça fait rire, et tout le monde sait que c'est absurde. Mm-hmm. Et donc voilà, donc l'humour juif, il y a de l'autodérision, et il y a de l'absurde aussi.
Et au fond, est-ce que ça vous étonne qu'on puisse, à ce point, avoir cette capacité à rire de soi ?
C'est exceptionnel. D'habitude, les histoires drôles qu'on raconte, quand elles mettent en scène un groupe, une communauté, une population, des habitants d'un pays, sont méchantes. Si je vous dis, j'ai une bonne histoire belge à te raconter, vous saurez que je vais traiter les Belges d'arriérés.
Et ça ne fait pas rire les Belges, en général.
Et évidemment pas. Si je vous dis, j'ai une bonne histoire corse à te raconter, ça voudra dire, je vais te parler de la paresse légendaire, évidemment mythique, des Corses, etc. Là, si j'ai une bonne histoire juive, ben les juifs ne seront pas traités de façon malveillante dans mon histoire. Ils seront intelligents, ils seront drôles, il leur arrivera des problèmes, des difficultés, ils sont très humains. Mais je ne raconterai pas ça pour me moquer d'eux. Il y aura de la bienveillance.
Une histoire juive peut-elle être racontée par quelqu'un qui n'est pas juif ?
Bon, écoutez, en général, ce n'est pas le cas. Parce que si quelqu'un qui n'est pas juif se met à prendre, en plus, pour bien raconter l'histoire, un accent juif, et qu'on saura qu'il n'est pas juif, il y a toujours un petit soupçon, fondé ou pas, d'antisémitisme. Je vous ai raconté l'histoire de Popek. Imaginez un instant Jean-Marie Le Pen racontant la même histoire.
Ce ne sera pas la même chose.
Voilà, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, on ne peut pas raconter n'importe où, n'importe comment, devant n'importe quel public et à n'importe quel moment des histoires juives. C'est vrai que c'est un exercice qui exige quand même une certaine précaution.
Alors en préparant cette émission, il se trouve que je lisais le roman Katerina d'Aaron Appelfeld et il y a ce passage où l'héroïne, alors c'est pas un roman spécialement drôle, même pas drôle du tout, mais l'héroïne qui est une chrétienne et qui aime beaucoup le judaïsme apprend le yiddish à son fils et il y a ce passage dans le livre où un juif lui demande à quoi ça va lui servir et l'héroïne répond à ne pas être goy. Et Aaron Appelfeld fait dire à son héroïne « Je savais que ma réponse allait le faire rire, ce qui ne manqua pas. » Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on n'est pas juif ou quand on est le public d'une histoire juive est-ce que ça ne dit pas quelque chose de l'état d'esprit un petit peu qu'il faut avoir ?
Alors, écoute, ça me fait très plaisir que vous citiez Appelfeld, que j'ai un peu connu personnellement et qui était un grand monsieur,
écrivain.
Un très grand monsieur. Alors, si on veut faire si on veut avoir un raisonnement un peu sociologique sur la réception, c'est ça la question que vous posez, de cet humour juif quand il n'est pas dans l'entre-soi, uniquement pour des juifs entre juifs, alors là on peut dire beaucoup de choses. Dans certains cas on rit parce que c'est universel ce qui se passe, ça vous fait rire parce que ça pourrait arriver à n'importe qui et pas simplement à tel ou tel personnage de l'histoire drôle. Dans certains cas, ça vous donne envie d'aimer un peu plus les juifs, d'être un peu plus bienveillant. Donc ça vous donne à réfléchir sur l'antisémitisme. Ça peut avoir un impact extrêmement diversifié.
Un grand merci Michel Wieworka. Nous poursuivons cette discussion sur l'humour juif dans une prochaine émission. Je rappelle le titre de votre livre, La dernière histoire juive, Âge d'or et déclin de l'humour juif, aux éditions de Noël. Merci à Pierre-Henri Paget pour la réalisation technique.